d'Islam par Ghaleb Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous recevons Tayeb Chouilef. Bonjour.
Bonjour.
Tayeb Chouilef, vous êtes islamologue, vous êtes éditeur, vous êtes conférencier dans des colloques nationaux et internationaux, et vous vous intéressez à toutes ces questions liées à la question islamique, au singulier. Comme on parlait naguère de la question d'Orient, pour dire qu'elle est centrale, cruciale, et au centre d'enjeux nationaux et internationaux.
Tout à fait.
Alors nous avons décidé aujourd'hui de mettre un peu d'ordre dans le fatra idéal, conceptuel, relatif à tout ce qui a trait à l'islam. Déjà, qu'est-ce que signifie le vocable islam ?
Eh bien, le vocable islam, en fait, comme beaucoup de mots essentiels de la langue arabe classique, est polysémique. Il a de nombreux sens. Disons que dans un premier temps, on peut parler du mot islam en tant que nom d'action. En arabe, il y a cette catégorie qu'on appelle masdar, le nom d'action. On appelle ça nom verbal aussi, c'est-à-dire l'action qui découle donc d'un verbe. Donc islam est le nom verbal du verbe aslama, qui veut donc dire entrer dans la paix, faire la paix, et s'en remettre à une puissance supérieure. Et donc ça, c'est le sens, on va dire, premier qui apparaît en arabe classique. Et puis, il y a un deuxième sens, c'est islam en tant que nom commun, c'est-à-dire en tant que désignation d'une attitude spirituelle. Et le Coran fait remonter cette attitude spirituelle à Abraham. Et il y a d'ailleurs un verset qui dit « C'est d'Abraham que vous tirez le nom de muslim », c'est-à-dire donc, qu'on traduit par musulman, mais qui veut dire donc « ceux qui entrent en islam », entendu donc comme cette attitude spirituelle abrahamique.
Entrer dans l'islam, vous venez de le dire, c'est entrer dans la paix, parce que la racine trilitaire du vocable islam, c'est « S-L-M », comme de nombreuses racines en langue arabe, et elle renvoie à la fois à la paix et au salut.
Exactement, exactement, tout à fait. Donc en fait, cette racine, avec ses trois lettres S, L, M, a donné de nombreux mots, dont le mot salam, qui est en fait commun à une racine sémitique, hein, qui a donné shalom en hébreu, par exemple.
Et, parce que les deux langues sont sinon sœurs, elles sont moins cousines.
Tout à fait. Ce sont vraiment donc des langues extrêmement proches parce qu'elles ont les mêmes racines sémitiques. Et donc, la racine se retrouve en hébreu aussi, hein, qui exprime donc cette paix. Finalement, dans le Coran, les mots d'origine, qui ont leur origine dans cette racine, sont très nombreux. Et cela indique quelque chose d'extrêmement essentiel dans ce que le message coranique veut transmettre. Et on aura peut-être l'occasion de revenir donc sur la diversité de ces termes liés à la racine SLM, donc racine qui indique la paix, la pacification.
Et le fait qu'on est en bonne santé, on est salim.
Exactement.
Donc il y a aussi le fait d'être superbe et le fait d'être sans défaut.
Exactement,
apparent.
Sans trouble, tout à fait.
Et sans trouble.
Justement, quand je pensais à certains termes du Coran tout à l'heure, je pensais notamment à cette belle expression de la sourate 26, « Al-qalb salim », le cœur pacifié, le cœur donc en paix, mais aussi le cœur saint, parce qu'effectivement, la paix, au sens de salam, est comprise comme absence de trouble, absence de disharmonie. Donc c'est à la fois une pacification et une mise en harmonie.
Alors vous avez cité une sourate, rappelons, une sourate est un chapitre sans être véritablement un chapitre, et qui est une section du Coran. Mais pourquoi prenez-vous le Coran comme référence, puisque là nous nous plaçons d'emblée sur un aspect linguistique uniquement ?
parce que le sens des racines de la langue arabe classique a été travaillé par le Coran, ces sens ont été modelés, disons, par la révélation, et l'ensemble de toute la réflexion des linguistes arabes depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui est marquée par le vocabulaire coranique, par les tournures coraniques, et donc le terme salam évidemment a été utilisé bien avant le Coran, mais quand même le Coran lui a donné peut-être des dimensions supplémentaires, disons.
Alors vous avez dit que islam c'est à la fois un nom d'action et puis un nom commun. Il y a cette notion d'une entrée en la matière et en l'espèce une entrée dans la paix. D'où vient selon vous l'idée d'une soumission qui traduirait une attitude morose, résignée, voire maladive et fataliste?
Alors, à mon sens, cette idée que l'islam voudrait dire soumission au sens de l'abdication du libre arbitre, au sens de l'abdication de la recherche personnelle, vient du fait qu'il y a un troisième sens que je n'ai pas encore évoqué, qui est le sens technique, qu'on pourrait appeler, disons, technique. Il y a l'ensemble des enseignements du prophète une distinction qui est devenue célèbre. C'est la distinction entre trois degrés de la religion ou trois dimensions de la religion. On dit même que c'est un des enseignements les plus fondamentaux du prophète de l'islam. Et cette distinction, c'est celle entre islam, on ne va pas le traduire tout de suite pour garder le terme, islam, iman, qui veut dire foi, et puis ihsan, la vertu parfaite, l'excellence, la recherche de l'accomplissement.
La bienfaisance, le bel agir.
Exactement. Tout ça, ce sont des termes qui nous aident à cerner ce vocable arabe qui est, encore une fois, polysémique. Et donc, on a dans cet enseignement trois dimensions. Et la première dimension a été comprise comme d'abord acceptation, disons, ou soumission à la volonté divine. Et cette acceptation, cette acceptation à la volonté divine permettrait ensuite de découvrir ce qu'est la profondeur de la foi et ensuite ce qu'est cette excellence, cette vertu, ce bel agir. Alors, si on part du principe que nous avons là trois degrés ascendants dans la religion, et que le premier degré c'est l'islam, très souvent on va comprendre, certains auteurs en tout cas, vont avoir tendance à dire, eh bien voilà, le point de départ, le tout début, c'est une sorte de renoncement au libre arbitre qui serait l'islam. En fait, et très tôt, de nombreux penseurs, de nombreux maîtres spirituels, de nombreux écrivains même aussi, se sont élevés contre cette interprétation en disant non, la découverte de la profondeur de la foi et l'entrée ensuite dans le bel agir ne dépendent surtout pas d'une compréhension de l'islam comme abdication du libre arbitre et abdication de la recherche personnelle, mais bien au contraire. Bien au contraire, il faut comprendre l'islam comme le rattachement à l'attitude abrahamique dont j'avais parlé tout à l'heure, comme étant donc une sorte de recherche personnelle, parce que quand on compulse ce que le Coran nous dit d'Abraham, on voit qu'avant tout, c'est un exemple de recherche personnelle. Il est dans une quête proprement intime, et puis il chemine seul, il évolue, il approfondit sa quête du divin, il passe par différentes étapes qui sont donc évoquées dans le Coran, et puis ensuite il découvre effectivement ce lien indéfectible à Dieu, cet amour inconditionnel de Dieu. Et donc, en ce sens, si on reprend donc les trois degrés, l'islam c'est l'entrée dans cette paix de Dieu, c'est faire la paix avec Dieu. Faire la paix avec Dieu au sens de reconnaître le besoin de transcendance. Finalement, le parcours d'Abraham, tel qu'il nous est donné dans le Coran, est le parcours de quelqu'un qui cherche cette paix intérieure, qui ne la trouve pas, qui aspire profondément à cette paix intérieure et qui finit par la découvrir.
Cette première étape est une pacification, donc une absence de trouble, les Grecs auraient parlé d'une ataraxie. Mm-hmm. On est en paix avec soi-même, une paix intérieure, cette mm-hmm. pacification, pour se préparer à accueillir la foi. Comme une deuxième étape.
Exactement, comme préalable à un rapport à la transcendance qui soit un rapport, je dirais, d'épanouissement et non d'asservissement. Parce que ce qu'on ignore très souvent, c'est que les Arabes de l'époque anté-islamique n'ignoraient pas Dieu, n'ignoraient pas Allah. Ils avaient une certaine foi, disons.
À ce sujet, Allah n'est pas une divinité mahométane. C'est la contraction entre l'article « al » et le mot « ilah » qui désigne Dieu, avec petit d, hein, l'espèce Dieu.
Tout à fait.
C'est un peu comme le « otéos » grec, le Dieu.
Exactement. Si on traduit à la lettre, ça voudrait dire le Dieu, le Dieu unique. Et donc, le fait de reconnaître une divinité supérieure était quelque chose qui était admis. Simplement, pour ces peuples, le lien direct ne pouvait pas se faire avec le créateur des cieux et de la terre parce qu'il était trop élevé, parce qu'il était trop transcendant, tout simplement. Et du coup, la relation directe ne pouvait être qu'avec des divinités intermédiaires, donc des idoles. Et ce que, finalement, le message de l'islam apporte, c'est cette possibilité d'un rapport direct avec la transcendance. Exactement.
Et le troisième degré, troisième phase, troisième étape, c'est effectivement le bel agir qui, pour certains, confine à la mystique et à l'intériorisation.
Exactement, exactement. En fait, on retrouve l'essentiel, finalement, de ce que le prophète va enseigner pendant toutes les années de sa mission par le tout premier enseignement qu'il donne arrivant à Médine. Nous sommes en 622 et il fuit la Mecque, il arrive en exilé à Médine, après avoir été en butte à une hostilité assez forte donc à la Mecque. Et puis, à peine arrivé dans cette ville, la foule des Médinois vient l'acclamer, vient l'accueillir. Et il a cette phrase qui a marqué un témoin de l'époque, un rabbin qui était venu pour voir ce moment de naissance d'une communauté religieuse. Il se dit, je vais écouter ce qu'il a à dire. Et il a eu une phrase à la fois, le prophète a eu une phrase à la fois très simple et très caractéristique de ce qu'est la perspective de l'islam. Il a dit, toute première chose, répandez la paix. Nourrissez le pauvre, respectez les liens de famille et priez lorsque les gens dorment. Vous entrerez au paradis en toute paix. Il commence par la paix, il finit par la paix. Répandez la paix. Et ce rabbin, dont on a fort heureusement encore le témoignage dans des sources anciennes, dit qu'il a été bouleversé par le fait que cet homme qui a été en butte à l'hostilité, qui a été chassé par les siens, par sa propre famille, même par ses oncles aussi.
Mis au banc, persécuté, subissant toutes les avanies, et il ne disait rien d'autre, notamment à Taïf, « Seigneur, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Tout à fait.
En reprenant les paroles de Jésus, connaissant la passion.
Exactement. Et donc, ce rabbin se dit, mais après 12 ou 13 années d'hostilité, comment peut-il avoir la force de dire « répandez la paix » ? Comment peut-il avoir cette force intérieure de ne pas succomber à cet appel de la vengeance et bien au contraire d'appeler à une pacification ? Parce qu'il se, évidemment, ce rabbin comprend que maintenant il arrive à Médine, il va avoir une assise, il va avoir la possibilité d'être soutenu, d'être défendu contre les Mécois. Et donc, voilà, il a cet enseignement à la fois très court et très dense qui va résumer, je dirais, la place de la paix dans l'enseignement du prophète.
Alors, tout ça est très bien. Comment expliquez-vous donc qu'en français, revenons maintenant au sens du vocable, du terme, du mot islam, qu'il est traduit systématiquement ou quasi systématiquement par soumission. Alors on pense que c'est dû à l'œuvre d'un certain orientalisme, puisqu'on en distingue deux. Mm-hmm. L'orientalisme dit de l'école savante, mais aussi un orientalisme mis au service de l'œuvre coloniale. Et on est parti de l'idée que avec l'islam, il y a une soumission fataliste avec ces idées du « c'est écrit », le « mektoub », etc. Okay.
Mm-hmm. Oui, c'est cela en fait. Il y a, disons, dans une certaine tradition populaire de l'islam, des formes de fatalisme qui se sont effectivement développées, qui sont effectivement devenues quelque chose d'assez répandu. Et le fatalisme, en fait, n'a pas un lien direct, disons, avec la notion de soumission, a plutôt un lien direct avec la notion de prédestination. Et donc, c'est plutôt l'accent mis sur la prédestination, le fait que, eh bien, ce qui peut arriver dans la vie d'un individu est écrit à l'avance et rien ne saurait changer ces choses-là. Et donc, que l'on agisse dans un sens ou dans un autre, de toute façon, le résultat sera le même parce que c'est prédestiné. Donc, c'est plutôt cet aspect des choses, plutôt que la soumission à la volonté du Dieu créateur. C'est plutôt donc cette écriture des destins. En réalité, la prédestination doit cohabiter avec le libre arbitre. Quand on lit les versets du Coran qui parlent de cette thématique, il y a autant de versets qui insistent sur la liberté de l'homme, sur sa liberté de choix, sur sa responsabilité, sur le fait que rien ne saurait nous dédouaner de notre responsabilité. Et par ailleurs, il est mis l'accent aussi sur l'omniscience divine. Dieu étant omniscient, il sait à l'avance le déroulement des choses, et c'est cette omniscience finalement qui peut donner l'apparence d'une écriture des événements dans laquelle on ne pourrait plus rien faire et dans laquelle on serait forcément prisonnier. Donc je dirais que l'image qu'on a pu avoir au 19e ou dans la première moitié du 20e siècle de ce qu'est le vécu de la foi en terre d'islam était beaucoup plus marquée par la prédestination que par la recherche de la soumission, disons, à la volonté divine.
Alors, vous nous avez dit que l'islam ne veut pas dire abdication du libre arbitre, mais beaucoup plus une pacification. Le « i » a collé à la fameuse racine trinitaire, marque cette entrée en la matière, une entrée dans, mm-hmm. en l'occurrence dans la paix. Mm-hmm. Et donc, le musulman, en l'espèce, n'est plus le soumis, mais c'est celui qui entre dans la paix.
Exactement. C'est celui qui recherche cette paix, d'abord en se pacifiant lui-même intérieurement, et ensuite en cherchant à faire rayonner cette paix à l'extérieur. Disons que l'ensemble de la spiritualité musulmane, elle est très fortement orientée vers cette réalisation de la paix aussi bien intérieure qu'extérieure. Alors ça, c'est évidemment, pour l'instant, je parle de ce que nous disent les sources de l'islam. Après, au niveau de la phénoménologie telle que la foi peut apparaître chez certains, les différentes formes de religiosité, évidemment, là,
Nous en parlerons parce que dans certains cas, il y a une religiosité aliénante,
exactement.
Voire crétinisante,
tout à fait.
Hélas.
Tout à fait.
Et oui. Nous pâtissons de cette compréhension dévoyée
exactement.
De la religion, et vous avez utilisé le terme de la religiosité.
Exactement. Donc il y a différentes formes de religiosité qui existaient déjà dès le vivant du prophète, et qui évidemment se sont développées à travers les siècles, et puis aujourd'hui on peut voir certaines formes de religiosité qui sont tout à fait morbides. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès le vivant du prophète, il a dû rectifier certaines choses parce qu'il voyait certains comportements, il voyait certaines tendances qui finalement sont propres à la nature humaine. Dans la nature humaine, il y a cette volonté d'annexer la vérité, de se dire possesseur de la vérité, de se poser comme ultime porte-parole de cette vérité et donc forcément de s'en prendre à tous ceux qui n'ont pas le même avis. Et il y a donc effectivement, dès le vivant du prophète, surtout vers la fin de sa vie, lorsque l'islam devient la religion majoritaire en Arabie, il y a des mouvements de conversion qui ne sont plus vécus avec le même élan spirituel que la démarche personnelle qui pouvait être celle des premiers convertis. Il y a quelque chose comme une une dynamique sociale qui s'est donc enclenchée. Et un des versets donc, de la sourate 49 dit « Les Bédouins ont dit « Nous avons la foi ». Ne dites pas que vous avez la foi. Dites « Nous acceptons le message, nous entrons dans le message de paix, mais la foi n'est pas encore entrée dans votre cœur ». Et on voit bien donc dans cette dernière étape de la mission du prophète, on voit bien qu'effectivement, dès que l'islam est devenu une religion assez étendue, eh bien certaines formes de religiosité vide, certaines formes de religiosité sans spiritualité apparaissaient déjà, et c'était donc le rôle du prophète que de mettre en garde contre ces formes de religiosité et de rappeler l'essentiel, de rappeler toujours ce qui fait l'essentiel d'une démarche spirituelle.
À ce stade de notre entretien, et tout en vous suivant, je voudrais qu'on revienne sur une idée pour lever l'ambiguïté relative au fait que Abraham ou les apôtres ou Marie sont coraniquement désignés comme étant des musulmans. Pourtant, ils ne jeûnent pas pendant le mois de Ramadan et ils ne se prosternent pas 5 fois par jour. Alors, en quoi Abraham est-il considéré comme le modèle des musulmans et comme le premier musulman?
Oui, effectivement, donc tout à l'heure, on a évoqué les différents sens du mot islam, et parmi les 3 sens que j'ai distingués, il y a celui du cheminement spirituel, d'entrer dans cette foi. Abraham, donc, par la démarche personnelle qu'il a eue, très jeune, le Coran nous le présente d'abord comme un jeune homme qui voit certains méfaits du paganisme dans sa société et qui se pose des questions et qui médite sur son environnement, sur la nature, sur la création. Et il se dit, mais ce monde, cette nature qui nous entoure est trop belle, trop parfaite pour être l'œuvre de divinités limitées, de divinités qui finalement n'incarnent aucune perfection. Ce qui choque, disons, Abraham dans le culte païen, ce n'est pas tellement la multiplicité, c'est surtout l'absence de perfection. Il voit que les divinités que son peuple adore peuvent être jalouses, peuvent être cupides, peuvent vouloir la domination. Et il ne retrouve pas donc cette aspiration à la perfection, sa quête de perfection, disons, ne peut pas se satisfaire de cela. Et donc, il a cette force intérieure de se démarquer et de se dire « je cheminerai seul, dussé-je me retrouver absolument seul sur terre ?»
Il y a toute l'astrolâtrie d'Abraham, puisque dans un premier temps, il voulait adorer l'étoile, mais quand elle a disparu, il s'est dit « je voudrais plutôt adorer la lune parce qu'elle est un peu plus grande ». Et puis il voit que la lune disparaît au lever du jour, il dit « je me retourne vers le soleil ». Et après, le soleil disparaîtra, il dit « je ne suis pas enclin à adorer celui qui est sujet au déclin ».
Exactement.
Et après, il va voir des ressources intérieures disant « que si Dieu ne me guide pas, je serai assurément parmi les égarés ».
Exactement. Donc, cette astrolatrie, entre guillemets, a très souvent été interprété comme un cheminement symbolique, c'est-à-dire qu'il passe d'étape en étape vers quelque chose de toujours plus absolu. L'évolution entre l'étoile, la lune, le soleil, puis le passage à la pure transcendance montre bien, en fait, hein, cette exigence intérieure qui est donc l'exigence abrahamique. Et donc, finalement, c'est ce cheminement-là qui l'a amené à réaliser la paix intérieure. Hein, parce qu'il y a d'autres versets du Coran où on voit qu'il est en recherche de paix intérieure. Il s'adresse à Dieu et il dit à Dieu, donne-moi un signe, montre-moi comment tu ressuscites les hommes afin que mon cœur s'apaise. Et cette phrase, afin que mon cœur s'apaise, puisque...
Qui vient à une question du genre, n'as-tu pas encore eu la foi ou n'as-tu pas encore cru ?
Exactement.
Dit, certes, mais afin que mon cœur s'apaise.
Exactement. Et donc on voit que, bien que étant devenu monothéiste, étant tout à fait tourné vers la transcendance de Dieu, il sent qu'il lui manque quelque chose qui est cette paix intérieure, qui est cet apaisement définitif, disons, du cœur. Et il demande un signe tangible à Dieu pour atteindre cette paix. Donc je crois que ce sont ces deux démarches essentielles, recherche de transcendance, recherche d'apaisement du cœur, qui fait que finalement le message de l'islam se réclame de la figure d'Abraham. Et donc le terme musulman ou le terme islam, lorsqu'il est désigné dans le Coran, évidemment ne désigne pas une religion spécifique avec des rites spécifiques.
N'est pas le mahométanisme, comme on l'aurait dit Molière dans ses Turqueries.
Donc, exactement.
C'est
exactement.
Le fait de se remettre à Dieu. C'est une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix à, en l'occurrence, à Dieu. Mmh. Et ce qui fait dire qu'Abraham a fait acte d'islam, c'est lorsqu'il a consenti à offrir son fils en holocauste à Dieu. Mmh. Lequel fils n'est pas nommé, d'ailleurs, dans le Coran. Mm-hmm. Donc, vous avez parlé de figures. Distinguons deux cas. Le cas de l'anthropologie du fait religieux qui parle d'Abraham comme une FSI, une figure symbolique idéale. Et puis, le cas de la croyance et de la foi qui fait d'Abraham le patriarche ou le coryphée ou le guide ou le père des croyants et des prophètes. Mm-hmm. Là, on a compris le sens à la fois d'islam et de musulman. Maintenant, les typographes chez les éditeurs distinguent un islam écrit avec petit i et un islam écrit avec grand i, majuscule. Oui. Quelle différence y a-t-il entre cette typographie et ces deux orthographes ?
Alors très souvent, quand on distingue dans un même texte islam avec majuscule et islam avec minuscule, c'est pour distinguer l'islam en tant que civilisation, et à ce moment on écrit, à ce moment-là on écrit donc avec une majuscule, un peu comme on écrirait chrétienté, donc avec une majuscule. Et puis quand on l'écrit avec une minuscule, c'est pour la religion au sens strict du terme, comme on écrirait christianisme à ce moment-là. Effectivement, en français, il n'y a pas de distinguo comparable à chrétienté, christianisme. Il y a le mot islam pour la civilisation et islam pour la religion.
La civilisation serait ou est l'aire aiéreux géographique et les peuples qui s'y trouvent et qui ont embrassé la tradition religieuse islamique et qui ont porté ou sous-tendu une civilisation, et dans certains cas, une civilisation impériale.
Oui, oui. En fait, lorsque l'islam, religion, atteint certains peuples donc au 7e et au 8e siècle, ce sont des peuples, je pense à la Perse, je pense au Proche-Orient, qui possèdent déjà des cultures et des civilisations très riches. Et ils perçoivent l'islam non pas comme quelque chose qui va être une rupture complète et totale avec leur passé, mais au contraire, très souvent, comme quelque chose qui va leur permettre de revenir à l'essentiel, à ce qui faisait l'essentiel finalement de leur patrimoine C'est pour cette raison qu'il y a eu, à travers les différents peuples et les différentes contrées où est arrivé l'islam, des adaptations très différentes. L'islam de Perse a pris certains aspects très différents, des aspects qu'on peut trouver dans l'islam du Maghreb ou l'islam andalou. Ce qui montre bien que tout en ayant les mêmes sources, en ayant les mêmes références, en ayant les mêmes fondements, eh bien, il y a des attitudes culturelles, attitudes spirituelles très différentes et très larges qui vont constituer la richesse de l'islam.
C'est pour ça qu'il est abusif de parler de culture au singulier, culture musulmane. Nous verrons tout à l'heure la nuance entre l'épithète ou l'adjectif islamique et musulman aussi, mais ça n'a pas beaucoup de sens de parler d'une culture musulmane.
Non, parce que de la même façon qu'il n'y a pas une seule façon de lire les textes sacrés, de la même façon il n'y a pas une seule façon d'en tirer les conséquences, d'en tirer un vécu au quotidien, d'en tirer un ferment pour le lien social. Et tout cela, en fait, est quelque chose qui est éminemment dynamique. Alors on voudrait, ou disons, en période de difficulté, en période de crise, certains croyants, c'est vrai en islam, mais c'est vrai dans d'autres religions aussi, voudraient se cramponner à quelque chose d'unique, voudraient une forme qui soit universellement valable et de manière intemporelle pour faire face, disons, à ces moments de crise, à ces moments de remise en cause, en pensant que c'est la bonne solution. Et précisément, l'histoire nous montre que dans les moments de crise, la bonne façon de sortir de ces difficultés, c'est au contraire de revenir, certes, à l'essentiel, mais d'accepter une évolution des formes. Accepter que les formes sont transitoires. Alors, c'est pas toujours facile à entendre, hein, pour certains croyants, que les formes sont transitoires. Et pourtant, si on regarde avec une vue très large, si on prend de la hauteur et qu'on regarde les siècles et les développements donc, de l'islam, on verra qu'effectivement, à chaque fois que les penseurs de l'islam, à chaque fois que les autorités de l'islam aussi, ont su se détacher de formes qui avaient fait leur temps et qui avaient montré leurs limites, pour en adopter de nouvelles, eh bien, il y a effectivement des renaissances qui se sont instaurées de manière extrêmement dynamique. Et c'est ce dynamisme spirituel qui, finalement, manque beaucoup aujourd'hui.
Alors, pour revenir à cette idée qu'il n'y a pas une culture islamique monolithique, c'est en partant de l'idée que la distance culturelle, par exemple, entre un juif de Constantine et un musulman de Constantine est quasi nulle, quasi par précaution. Les mêmes goûts culinaires, les mêmes habits, la même gastronomie, ils sont mélomanes tous les deux en aimant la même sorte de musique. Alors que la distance culturelle entre un musulman de Rabat et un musulman de Peshawar est abyssale.
Exactement. C'est un exemple qui nous montre bien effectivement que la proximité culturelle ne dépend pas simplement du culte accompli au quotidien, mais dépend de tout un ensemble de référents qui vont constituer la culture commune. Et vous avez raison d'insister sur le fait que au Maghreb, juifs et musulmans du Maghreb ont pu vivre en bonne intelligence pendant des siècles, précisément par cette proximité culturelle, par ce partage, disons.
Donc ce qu'on impute à la tradition religieuse le plus souvent, elle n'en est pas exempte, certes, ce sont davantage des traditions, des coutumes, une compréhension, une vision du monde qu'on vient accoler le plus souvent ou la teinter de confessionnalisme et lui donner cette onction sacrée.
Oui, pour reprendre une expression que je trouve heureuse, il n'y a pas d'islam chimiquement pur. Il n'y a que des façons de vivre son islam qui vont prendre corps dans un contexte, qui vont prendre corps dans une histoire, dans une culture. Et cette recherche d'un islam chimiquement pur, entre guillemets, c'est précisément une voie extrêmement risquée, parce qu'on risque de se retrouver aux antipodes, finalement, des valeurs prônées par cette religion.
Alors, pour continuer à comprendre un peu plus le vocabulaire, là, nous essayons encore une fois de mettre un peu d'ordre dans cette confusion mentale, dans le champ sémantique. Quelle nuance y a-t-il entre l'adjectif islamique et l'adjectif musulman ?
Entre les deux termes, il y a une différence qui n'est pas toujours respectée. Vous trouverez dans certains écrits qu'ils sont utilisés comme des synonymes. Voilà. Et puis d'autres vont utiliser islamique pour ce qui se rattache à l'islam en tant que religion, et puis musulman pour tout ce qui est rattaché culturellement à l'islam.
Alors il y a cette notion de dire on ne qualifie de musulman que celui qui est doué de raison et animé d'une vie, en l'espèce un homme, une femme, une société, une communauté, un peuple, une nation, et islamique. C'est un adjectif construit sur le mot islam, mais qui accolé ou qui adjective en quelque sorte tout ce qui n'est pas doué de raison et qui est inanimé.
Oui. Alors, si on se souvient que l'islam n'est pas une religion basée sur la personne de son fondateur, que l'islam finalement se base sur une quête, un retour à la transcendance de Dieu. Alors on comprendra que le mot islam finalement ne désigne pas le rattachement à l'enseignement d'une personne, fût-il prophète, mais bien une démarche vers tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Et sera dit islamique finalement tout ce qui va participer de cette démarche, tout ce qui va être lié à cette démarche religieuse et spirituelle. Il n'y a en français, pas l'utilisation de Mohammedisme, si ce n'est il y a quelques siècles, mahométanisme qui a disparu.
Oui, mais c'était même jusqu'au début du siècle écoulé. La mosquée de Paris était la mosquée du culte mahométan. La mosquée de Paris a été inaugurée en 1926. Progressons un peu dans la compréhension, parce que il me paraît de la plus haute importance de savoir de quoi on parle au juste. Alors, vous nous avez dit que l'islam est une pacification, est une entrée dans la paix, est une sorte d'absence de trouble intérieur, c'est une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix à Dieu. Et on voit, hélas, que ceux ou un certain nombre de ceux qui se réclament de cette tradition religieuse ne sont ni pacifiés, ni quiets, ce qui est le contraire de l'inquiétude. Et alors, une énième question que nous sommes en droit de nous poser, alors y a-t-il eu un manque d'islam ou un excès d'islamisme, avec cette idée que le « isme » est un suffixe qui étouffe la racine ?
Quand on veut comprendre des dérives humaines, qu'elles soient le fait d'individus singuliers ou qu'elles soient le fait de groupes plus étendus, il me semble qu'on ne peut jamais dédouaner les individus de ce qu'ils sont, de leur propre recherche, de ce qu'ils portent en eux-mêmes. Même s'ils se réclament d'une doctrine, même s'ils se réclament d'une appartenance à une religion, à une doctrine ou autre, à une idéologie, je crois que les dérives sont avant tout quelque chose qui appartient à la nature humaine. Il faut juguler l'animal en nous. Il faut dépasser cette capacité que l'homme a de s'en prendre à son semblable. Et on peut très facilement trouver dans n'importe quelle religion, voire dans n'importe quelle idéologie même, de quoi justifier toutes ces tendances négatives. Donc je crois qu'il est vraiment important que lorsque nous essayons de comprendre un phénomène de dérive, quel qu'il soit, de comprendre l'humain avant tout.
Tayeb Souilef, continuant encore une fois à cerner le sens des mots que nous utilisons, Et pourquoi l'islamisme qui existait au XIXe siècle, un peu à la manière du génie du christianisme de Chateaubriand, il y avait ceux même qui en parlaient du génie de l'islamisme, cette fois-ci, le isme accolé à l'islam était une tradition religieuse. Et puis c'est parti, c'est tombé en désuétude et ça ressurgit à la faveur de l'ouvrage notamment, mais pas uniquement, de Bruno Etienne, l'islamisme radical. C'est quoi l'islamisme finalement? Ce serait l'idéologisation, la politisation, le fait de considérer la révélation coranique comme une doctrine politique qui donne lieu à l'islamisme?
Oui, alors je crois qu'on peut tirer de des événements du XXe siècle à travers le monde arabo-musulman, on peut en tirer comme conclusion que la rencontre subite avec la modernité, avec les défis du colonialisme, avec les défis donc liés à la nécessité de repenser en profondeur la religion et la culture arabo-musulmane elle-même, d'ailleurs, a poussé donc certains penseurs à forger donc une pensée dite réformiste et à jeter les bases ensuite de ce qui a pu devenir l'islamisme dont nous parle Bruno Etienne. Disons que en période de crise, l'expérience fondatrice du prophète, les 12 ou 13 ans à la Mecque et les 10 ans à Médine, va être relue avec une grille de lecture qui, à mon sens, est tout à fait aliénante. Il est vrai que le prophète arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, il arrive à Médine, il fonde une communauté, disons, mais la place de l'organisation de la cité, pour faire simple, disons, la place de la politique, hein, au sens étymologique.
Et premier du terme, et premier, gérer les affaires dans la police, dans la cité.
Dans la cité, tout à fait, était tout à fait secondaire et n'avait pas vocation à primer sur le lien personnel avec le divin, sur la recherche intérieure. Et donc, relire la période fondatrice de l'islam en temps de crise avec une lecture, disons, un peu déformante, risque effectivement de laisser croire que la solution, finalement, la solution au problème serait d'ordre politique. Il faudrait finalement, pour permettre à l'islam de retrouver quelque chose de ce qui a fait sa grandeur pendant de nombreux siècles. On sait que, évidemment, l'islam a rayonné d'une très belle manière de l'Andalousie jusqu'en Inde pendant nombreux siècles.
Comme on ne vous lit pas, mais on vous entend, ici, le vocable islam serait écrit avec grand T.
Avec un grand T.
Voilà, parce que, encore une fois, j'essaie de mettre en pratique ce que nous apprenons ensemble et avec vous, Taïeb Chouilef. Ce qui me paraît important, encore une fois, dans notre entretien, c'est que on fixe l'essence, même si en langue arabe, les mots sont très polysémiques. D'autant plus que le vocable, le terme islam est devenu pour beaucoup de nos compatriotes et auprès des auditeurs un mot anxiogène. Donc il faudrait au moins le comprendre.
Bien sûr.
Et en arrivant un peu au terme de cet entretien, je voudrais aussi que nous parlions de cette notion d'islamophobie. Étymologiquement, c'est avoir une peur irraisonnée, pathologique, maladive en l'espèce de l'islam, comme un arachnophobe qui aurait peur des araignées ou un claustrophobe qui ne prendrait pas l'ascenseur et un agoraphobe qui ne sortirait pas dans la rue. Mais les islamophobes seraient excusables, sinon de l'islam, que les tueries, les attentats et toute la barbarie.
Oui, disons que la forme de rejet qu'on peut parfois ressentir chez certains est en réalité liée à une peur qui n'est pas rationnelle, qui est simplement liée à une ignorance de ce qui fait l'islam dans sa diversité et dans ce qui, évidemment, dans ce que proposent les médias, très souvent, la diversité de ce qui constitue les musulmans aujourd'hui, et l'islam de France en particulier, n'est pas toujours bien représenté. Il n'est pas facile pour un auditeur ou un téléspectateur lambda de pouvoir se faire facilement une idée de ce qui constitue le patrimoine de... Alors peut-être que...
Alors vous êtes sur un média pour pouvoir le dire.
Exactement.
Tayeb Chouilef, faites-vous le distinguo entre islamophobie et misislamie ? Misislamie, comme on aurait parlé de misogynie ou misanthropie, c'est-à-dire d'un côté une peur irraisonnée, maladive, irrationnelle de quelque chose, et en l'espèce de l'islam, et de l'autre, une hostilité, une haine déclarée et assumée comme telle.
Oui, je pense qu'il y a effectivement un distinguo à faire, à savoir que ce que j'ai dit donc juste avant sur ceux qui pouvaient se faire une idée fausse parce qu'ils n'ont pas forcément accès à, ils n'ont pas forcément le temps non plus hein, de pouvoir approfondir ce qu'ils peuvent savoir de l'islam est une chose, mais par contre il y a chez certains, heureusement ils sont peu nombreux, mais ils sont actifs, une misislamie, et votre terme est tout à fait juste et approprié je pense, à savoir la conviction que l'islam n'est pas compatible de toute façon avec ce qui fait l'essence de notre pays, ce qui fait le vivre ensemble aujourd'hui dans notre pays, et que puisque l'islam est de toute façon par essence incompatible avec le vivre ensemble dans notre pays, eh bien le mieux serait qu'il puisse disparaître complètement. Et donc il faudrait, prendre tous les moyens possibles et imaginables pour qu'enfin il puisse disparaître. Mais c'est évidemment absolument irréaliste et c'est une attitude qui me semble à l'inverse du défi qui est à relever aujourd'hui, à savoir donc cette réalisation du vivre ensemble pacifique et bien vécu.
Alors vous avez évoqué le vivre ensemble à quelques reprises, mais il se trouve que nous sommes ensemble. Mais sommes-nous dans la défiance, la méfiance, le repli, le communautarisme, ajoutent certains, ou voudrions-nous être ensemble, mais dans une sorte de synergie, de symbiose, d'osmose, et le fait d'asseoir les bases d'une société commune, fraternelle, prospère et solidaire pour tous. C'est ça l'idée, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de parler du vivre ensemble, qui serait pour les linguistes un mot hoché, tout comme d'ailleurs l'islam, pour certains, est un mot valise. Et nous venons de voir avec vous comment préciser les contours des différents signifiants et des sens du mot islam. Tayeb Chouilef, l'islam est une entrée dans la paix, soit doit être en principe le comportement des adeptes de cette tradition religieuse. Ils ne le font pas, donc ça devient plus un comportement humain, ou y a-t-il quelque chose d'intrinsèque dans la tradition religieuse qui est à revoir pour qu'il ne soit pas enclin à agir de la sorte?
Oui, alors ils ne le font pas, peut-être qu'il faut relativiser, disons, cela, puisque par définition, celui qui vit dans la paix, celui qui est apaisé, est évidemment moins visible au sens où il va être peut-être plus discret dans sa façon de vivre sa spiritualité et sa foi. Disons que toute une frange, il faut avoir évidemment le courage de le dire, toute une frange de la communauté musulmane, même si je persiste à dire qu'elle est minoritaire, mais cette frange est exempte de paix intérieure, ne vit pas cette paix intérieure, vit dans une sorte de bouillonnement, je dirais, intérieur, et mélange toutes sortes de frustrations, des frustrations qui sont peut-être identitaires, d'autres qui sont économiques, d'autres qui sont sociales, la difficulté à s'insérer.
Là, vous les relativisez au cas français.
Oui, oui, oui.
Parce qu'il y a aussi des difficultés de par le monde.
Oui, bien sûr, mais je parlais vraiment de ce qui se passe donc ici. Hein. Et donc, cette absence, disons, de paix est nourrie évidemment de plusieurs sources, mais surtout la façon dont ils ont reçu l'islam, la façon dont l'islam est parfois transmise, alors que ça peut être par les parents, ça peut être par des enseignants religieux ou d'autres, ne vient pas consolider cette possibilité de grandir sereinement avec cette capacité à atteindre la paix. Et là, on a effectivement, il y a un défi, moi je crois, pour de nombreuses communautés musulmanes de France, mais dans le monde, on pourrait en dire autant, pour revoir les modes de transmission de ce qu'est l'islam, revoir les modes de transmission de ce qu'est cette spiritualité et s'interroger profondément sur quel genre d'adultes nous formons en transmettant de telle et telle façon. Parce que l'enjeu, il est aujourd'hui dans la transmission, dans l'éducation.
Vous avez raison, les maîtres mots et les antidotes à la radicalisation, à l'extrémisme, demeure, donc au pluriel, éducation, instruction, acquisition du savoir, culture, connaissance, ouverture sur le monde, inclination pour les valeurs esthétiques, pour la beauté, même si ce n'est pas suffisant, mais en tout cas c'est nécessaire, et la préparation de l'individu, homme et femme, alors pas à transmettre la foi, parce que ça ne relève pas d'une volonté, mais de laisser place à l'intelligence hybride du cœur et de l'esprit.
Exactement. Transmettre en fait un patrimoine avec lequel le jeune va pouvoir se construire et puis aller vers la forme de foi qui lui correspond, ou absence de foi même. Il faut avoir aussi le courage de se dire que la foi ne s'enseigne pas, elle ne se transmet pas par un enseignement, elle peut s'indiquer, on peut indiquer un chemin. Et on ne peut évidemment pas la transmettre au sens direct du terme. Et vous avez parlé des valeurs esthétiques de l'islam, avec un grand I cette fois-ci. Moi, je suis toujours très étonné de voir à quel point dans... si on ouvre les manuels d'instruction religieuse, par exemple, des pays comme les pays du Maghreb ou d'autres, puisque dans ces pays, il y a évidemment une instruction religieuse à l'école, on ne trouve quasiment rien sur l'esthétique, quasiment rien sur les arts de l'islam, la calligraphie, l'architecture, les différentes formes d'artisanat, qui sont une richesse extraordinaire, qui ont été développées pendant des siècles par des hommes et des femmes qui avaient conscience que ce patrimoine esthétique est essentiel. Et aujourd'hui, on n'avait pas une ligne, disons, de la sixième à la terminale. L'élève n'a pas une seule ligne pour découvrir le sens esthétique.
Alors, vous mettez le doigt sur aussi une carence véritable, une indigence culturelle et une déshérence intellectuelle. Nous aurons l'occasion d'en parler dans d'autres éditions. Merci Taïeb Chouyelef, puisqu'on nous arrivons au terme de notre entretien.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Je citerai votre ouvrage qui nous a servi aussi comme base de discussion aujourd'hui. Ce sont ces citations au pluriel, citations coraniques expliquées, éditées chez Erol. Et là, vous avez passé en revue 150 citations pour découvrir l'ensemble de l'œuvre coranique et de se familiariser avec tous les aspects du Coran. C'était Culture d'Islam par Ghalib Bencher et nous avons reçu aujourd'hui Taïeb Chouyelef. Vous retrouverez toutes les références du livre et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Dominique Campetissa. La prise de son est Pierrick Mancini et la réalisation est de Franck Lilin. Thank you.
Thank you.